Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Je voulais souhaiter la bienvenue à Bruno Benvindo.
Jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'After, tout le monde, en direct, 7 jours sur 7, jusqu'à minuit sur RMC et 24 heures sur 24 en podcast. L'équipe ce soir, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et Jonathan McCarty. Salut Jo.
Salut Thibaut, salut Kev.
Comment va l'équipe type du vendredi soir?
Salut Jo. Très bien.
Content de vous retrouver.
Bah moi aussi. On a eu un beau match hein, en plus. Bon.
Tu m'avais manqué, ça fait 15 jours. Content de faire de retour ce soir.
Bah, c'est moi aussi, poulet. T'as pas une playlist à me filer là pour.
Oh, bah, absence. Tranquille, on a une bonne heure à passer ensemble. S'il faut mettre un petit peu de musique, on va en mettre. Vous avez regardé le match?
Oui,
le handball un petit peu ou pas du tout? Vous êtes à fond franchement.
Zéro la tête à Toto.
Ok. Et un petit peu, mais très peu.
Très peu.
C'est intéressant ce sport en vrai?
Très intéressant, surtout. Quand l'équipe de France gagne et arrive en finale du championnat.
Honnêtement, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce sport.
Tiens, ben justement.
Je ne parle pas vraiment.
L'after démarque dans un instant, mais en direct. Réaction de Ludovic Fabregas. Ça se passe en Suède. Arnaud Valadon est sur place. On va entendre une ou deux réponses là au micro d'Arnaud Valadon. Fabregas.
On a fait un gros match offensivement, mais défensivement aussi. On avait très bien préparé cette rencontre. Je pense qu'au-delà des relations qu'on peut avoir, nous, entre joueurs, c'est, je pense, ce que chacun a mis dans ce match. Tactiquement, on était très bien en place, mais c'est vrai que dans l'intensité, l'agressivité et à la fois cette maturité, cette tranquillité, ça nous a permis de mener de bout en bout et ça a été une physionomie de match qui, au final, nous a permis, je pense, de l'emporter.
Et Bleu Taille Patron ce soir?
Je pense qu'on a fait un super match. C'est vrai que gagner ici à Stockholm face à la Suède devant 22 000 personnes et dans un championnat du monde, et quand on gagne de 5 par rapport à la prestation, je pense que c'est certainement notre plus beau match de la compétition, ça c'est certain en tout cas. Et c'est une réelle satisfaction de pouvoir rejoindre la finale maintenant et de pouvoir jouer pour un titre de champion du monde.
Ludovic Fabregas au micro d'Arnaud Valadon. Les Bleus en finale face au Danemark, ce sera dimanche soir, ce sera en direct sur RMC, c'est 20h30 ou 21h. L'organisation n'a pas encore dévoilé l'horaire définitif, ce sera l'un des deux. Toutes les réactions ce soir à retrouver sur rmcsport.fr. Mais ce soir, c'est l'after foot, les gars, parce que vous seriez mal si on faisait l'after on. Et on va revenir sur la victoire de Lorient.
Encore que j'ai eu 16 en staps.
Sur l'épreuve handball?
Ouais.
Et c'est-à-dire en joueur?
Ouais, en joueur. Bah,
pas mal. Tu joues quel poste?
Écoute, on joue un peu partout. Non, mais je suis assez polyvalent dans les sports co.
Ouais, il est là, ok. Je suis assez polyvalent dans les sports co. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir au rugby, toi, tiens.
Bah, déjà au ski, tu m'as vu. Ah, tu m'as pas vu au ski du coup?
Si, je t'ai vu.
Ok.
Sport co, oui, sport de hangar, comme on dit.
sport de préau.
Sport de préau, tu dis. Ouais. Non, au rugby, bon, même ailier, c'est compliqué là quand même.
Bah, au rugby, j'étais très bon aussi. Demi d'ouverture. Tu vois, un peu genre.
Faut pas que tu te fasses
allez,
attraper.
Allez, deux coups d'épaule, tu tombes à
ouais,
la
faut pas que tu te fasses attraper.
Déconne pas, au handball, on est 23, mais au rugby, on n'est pas sûr.
Fallait m'attraper. Avant que tu me fasses la clé de soumission, il va falloir que tu m'aides. Tu cours vite et longtemps.
Mais t'as vu les mecs au rugby? Il y a des mecs de 120 kilos qui courent le sprint en 12 secondes.
Là, on parle du rugby à la fac. C'est pas le rugby de top 14.
Allez, les gars, retour sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire le football. Avec donc ce soir, en ouverture de la 20e journée, la victoire de Lorient 2-1 contre Rennes, supporters lorientais, supporter Rennais, le 32-16. On vous attend, Adriella, au standard. Et venez débriefer avec nous ce match. Gros dos mercato ce soir. Il s'est passé beaucoup de choses à Marseille. Ounaï va signer.
Oui.
Dieng est parti. Ilitch ne devrait finalement pas venir. Supporter marseillais, venez nous dire ce que vous pensez de la tournure que prend ce mercato d'hiver. On en parle d'ici une petite demi-heure.
Un chef-d'œuvre.
Carrément.
Chef-d'œuvre.
Et puis l'OL aussi au programme. Gusto, Fèvre, Tété, ils s'en vont. Gusto, ce sera cet été, mais il va signer à Chelsea. Quelques noms pour les remplacer, mais rien de signé. Est-ce que c'est inquiétant? 32-16, mais Lyon est sûr. Et puis, on sera avec Julien Laurence juste avant minuit, parce qu'il y a de la Cup ce soir. Ça se passe en direct. Ce sont les 16e de finale. C'est l'affiche entre les deux prétendants au titre et c'est terminé. Manchester City a battu Arsenal 1-0, but de Nathan Ake. City est donc qualifié pour les 8e de finale à l'étranger. Vous signalez ce soir la victoire de la Salernitana en championnat contre Lecce 2-1. Et puis en Espagne, on joue les dernières secondes de Almeria espagnol. Almeria mène 3-1 sur tous ces sujets, les gars, le 32-16. N'hésitez pas, vous êtes chez vous, Adrien est là au standard. Vous pouvez commenter l'émission sur Twitter, le hashtag RMC Live, sur les applis RMC, RMC Sport, le Direct Studio. Et puis, vous le savez, du lundi au vendredi, on est sur Twitch, hein, les gars, entre 20h et minuit, la chaîne RMC Sport. Je salue l'ému qui est là-haut et puis toute la commu. Qui peut commenter dans le chat de la chaîne Twitch RMC Sport.
C'est un ouf, les murs.
C'est ouvert, je vous lis. Absolument, c'est un ouf.
Non, mais tu sais pourquoi c'est un ouf ? C'est que dès qu'il y a des combattants de MMA qui viennent, ils lui envoient leur meilleur coup, leur meilleure soumission.
Ouais. Lui ou
c'est
Sacha.
Un peu nos... ouais. C'est vrai. Ah, non, c'est dur pour
si
eux.
Vous allez sur nos réseaux sociaux, la RMC Sport, etc.
Ils donnent de leur personne.
Hein. Voilà, il y a beaucoup de combattants qui viennent et quand il y a besoin d'une démonstration générale, c'est vous voyez Lemuel ou Sacha se faire casser la gueule. Retour au foot. Et on commence tout de suite par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les trois points de Kevin et Jonathan. Vas-y, Jo.
Écoute, le premier point, c'est que c'était un match où chaque équipe a gagné une mi-temps. Donc, au final, le résultat aurait dû être un match nul, mais Lorient a été plus efficace sur la mi-temps qu'il a dominé. Le deuxième point, c'est le début de post-Coupe du Monde un petit peu compliqué pour Rennes. Il y a eu la blessure de Tarier qui a changé beaucoup de choses. Et encore une fois, dans un match où, en première partie de saison, je pense que Rennes aurait gagné et aurait maîtrisé, là, Rennes ne prend pas les trois points. Donc, ça commence à devenir un petit peu inquiétant pour le podium. Et mon troisième point, c'est le mercato de feu, accompli par Don Pablo avec on est content pour lui le départ de Bamba Dieng, l'arrivée probable d'Unai sur un mercato. Si tu fais Malinovski, Unai plus un œuf de bon niveau, c'est vraiment une masterclass de Pablo Longoria.
Kevin, tes trois points ce soir.
Bah écoute, le premier point c'est Lorient qui malgré un mercato très mouvementé, encore une fois grâce à cet entraîneur, grâce à cette organisation qui est parfaite en tout cas sur les 45 premières minutes, parce qu'ils mènent 2-0, ils doivent mener 3-0 avec cette occasion énorme de Koné, et finalement en deuxième mi-temps, ce sera mon deuxième point, c'est Rennes qui est revenu plus fort avec trois changements à la pause. C'est difficile clairement en 2023 pour Magère notamment, mais pour d'autres Rennais aussi, et finalement ces 45 premières minutes totalement ratées n'ont pas réussi à les renverser. Et en 3, c'est le mercato avec une journée encore, un bon vendredi de mercato très mouvementé. Et c'est vrai que comme disait Jonathan, le mercato de l'OM, ça commence à ressembler à quelque chose. Par contre, le mercato lyonnais, ils ont réussi à faire partir quelques noms. Maintenant, il va falloir recruter intelligemment.
32-16 hein, pour parler du mercato. Ce sera aux alentours de 23h25, 23h30. Mercato marseillais, mercato lyonnais. C'est les deux qui ont bougé. Je vous donnerai toutes les infos. Supporters marseillais, lyonnais. N'hésitez pas, le 32-16. Rennes, quatrième défaite depuis la reprise post-Coupe du Monde, la troisième en championnat.
Quatre défaites, trois victoires.
Voilà.
Tout ou rien avec Rennes.
Rennes, cinquième du championnat avec 37 points. Lorient remonte à la sixième place, 2 points de retard sur Rennes. Rennes qui a 5 points provisoirement du podium, et l'OM joue demain soir contre Monaco. À la vitesse où ça va, à quel moment on va dire que ça va devenir compliqué pour le podium, pour le Stade Rennais, les gars?
Écoute, le problème, c'est qu'avec Rennes, c'est tout ou rien. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le début de la saison, si je me trompe pas, ils ont marqué dans tous les matchs de Ligue 1, sauf le match aller contre Lorient, qu'ils perdent 1-0. Et c'est une équipe qui, dépend de son potentiel offensif. Et quand offensivement ça ne fonctionne pas et il y a des approximations, comme ça a été le cas ce soir, notamment en seconde mi-temps, où je pense que vu la main mise sur le match, Rennes avait largement de quoi revenir au score et même l'emporter, ça fait que Rennes repart avec une défaite. Donc depuis la fin de la Coupe du Monde, c'est 4 défaites et 3 victoires, et ça illustre bien cette équipe qui est tout feu tout flamme, c'est-à-dire c'est soit tout, soit rien. C'est une équipe qui est extrêmement agréable à regarder, et en ça, on salue le travail de Bruno Genesio. Maintenant, l'axe de travail sur la seconde partie de saison, ça va être d'arriver parfois, pour décrocher le podium, à décrocher des victoires un peu moches.
Moi, je pense que les gens se sont... pas tous les gens, mais que certaines personnes ont sous-estimé l'importance de Martin Terrier. Martin Terrier, on disait que c'était...
Et fou, ça fait un psychodrame, Kev.
Non, mais je veux dire, on a pu peut-être penser que ça allait le faire sans Martin Terrier, etc. Mais Martin Terrier, c'est le Kylian Mbappé de Rennes. C'était le déclencheur, c'était le joueur qui était capable de décrocher, de venir chercher les ballons. Et il a quand même résolu... résolu pas mal de situations. C'était compliqué dans certains matchs aussi en première partie de saison, mais t'avais toujours Martin Terrier qui mettait la bonne passe, qui mettait la bonne accélération, qui mettait le bon but pour lancer le match rennais. Voilà, c'était le facteur X, même si cette équipe elle a beaucoup de qualité, elle a beaucoup de talent.
Là, ça va être résolu. Il n'était pas qualifié, mais il y a Toko Ekambi qui arrive.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est un joueur qui va leur faire du bien, mais c'est pas la même chose. Martin Terrier, il était arrivé à un niveau international. On se demandait s'il allait faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Bon, pour le coup, Karl Toko Ekambi l'a fait avec le Cameroun, mais quand on sait le nombre et le réservoir de l'équipe de France, quoi, et tu disais que Martin Terrier pouvait être dans la sélection, c'est quand même pour dire le niveau qu'il a. Donc, derrière, il y a encore des joueurs, il y a Bourigeaud. Il y a quand même un joueur dont j'ai envie de parler, c'est, même s'il a failli marquer dans les dernières minutes de la tête, mais ouais. Amine Gouiri. Il y a un moment, Amine Gouiri, on parle beaucoup de Cherki, mais Amine Gouiri, si on écoutait certains, pareil, c'était le joueur qui allait devenir le futur Benzema, quoi.
Gouiri, si tu suis pas trop, tu peux avoir oublié que le gars est à Rennes.
Ou que le gars joue aussi. Bon.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Joue,
ouais. C'est un peu dur. Mais,
sur certains matchs, il disparaît un peu.
En termes, je te rejoins, Kevin, sur le fait que Terrier avait atteint un niveau qui était absolument exceptionnel et inespéré au vu de ses dernières saisons à l'Olympique Lyonnais. Mais n'oublions pas que Rennes, même si ce soir Kalimondo n'est pas là parce qu'il est blessé au genou, a un potentiel offensif qui est quand même assez superlatif.
Mais personne n'a le profil de Terrier.
Mais t'as Gouiri, t'as Majeur, t'as Kalimondo, t'as Bourigeaud, t'as Flavienté, t'as Doku, t'as quand même des joueurs de qualité qui sont censés faire beaucoup mieux. Et le problème, c'est que le seul joueur qui a été à son niveau et qui m'aime mieux, je te rejoins, à surperformer, ça a été Martin Terrier. Pour l'instant, tous les joueurs offensifs que j'ai cités du Stade Rennais, même Lovro Majeur qui est le chouchou des fans, je ne le trouve pas à leur niveau depuis le début de la saison. Ils sont encore un petit peu en deçà.
À part Bourigeaud.
32-16.
Bourigeaud, est-ce que c'est vraiment un joueur offensif?
Il y a Théo qui je vais prendre dans un instant. Juste sur le chat là, de la chaîne Twitch RMC Sport, Vidam écrit l'OM et Lens peuvent assurer le podium dès demain. Il y a le Marseille-Monaco qu'on a hâte de suivre demain soir.
Ah oui.
Il y a Romain qui écrit perso, Rennes, ça grimpe doucement. Après, ils peuvent pas aller au top de Ligue 1, mais respect malgré la défaite. Et on a Théo qui est avec nous, supporter rennais au 32-16. J'ai mon écran qui marche pas, si on peut le mettre en rue.
Bonsoir, l'after.
Ah, salut Théo.
Salut Théo. Comment
bonsoir.
Ça va?
Bonsoir. C'est ma première, je suis super content.
Bienvenue.
Donc voilà.
Bienvenue.
Sois le bienvenu. On est content de te recevoir, Théo. On espère qu'on va bien te recevoir. Tu nous appelles d'où?
Je vous appelle de Normandie, mes supporters rennais et bretons de cœur. Donc voilà.
Ok. Et alors, ce match de ce soir, qu'est-ce que t'en retiens?
J'ai envie de dire, c'est un peu dans la continuité des derniers matchs. Grosse déception, surtout avec la formation de Genesio, en fait. On a vu un 5 ou un 3-4-3 ou une défense à 5 comme il avait aligné contre Paris, mais c'était plutôt un gros coup de poker qu'il avait réussi à Paris. Surtout que face à Paris, il faut bétonner. On sait qu'en contre-attaque, ça peut aller vite. On a réussi à le faire. Mais contre Marseille, ça l'a pas fait. On sait qu'au milieu de terrain, ça laisse très peu de densité. Maillère, on est
ici,
c'est à côté du
Gossoku.
Théo, on t'entend plus. On t'entend plus très bien là. Je sais pas si t'as mis le haut-parleur ou si t'es sous la couette. Non, t'as mis le haut-parleur.
Là, vous m'entendez mieux.
Là, c'est très bien, Théo.
Allez.
Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que Maca, il parlait de Maillère, mais Maillère, en fait, faut qu'il soit 10, en fait, faut qu'il soit juste devant. Devant la défense, là, il est 6. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il y a très peu de densité au milieu de terrain. Hugo Choco, il essaye de faire ce qu'il fait.
On sait ce qu'il ne fait pas, en tout cas, Maillère, Théo. C'est du 100 mètres, quoi.
C'est pas un joueur de rapidité. C'est pas il essaye de récupérer des ballons, mais c'est pas bon. Contre Marseille, on voit, il nous coûte le match.
Théo, juste avant de te relaisser la parole.
Vas-y, Maca.
Je pense qu'en fin de match, Rennes est repassé à une défense à deux. Tu vois, avec deux centraux. Ouais. Et je pense que ça va simplifier la vie. Ouais, c'est vrai. Mmh. Ça va simplifier la vie de Lovro Majeur qui, avec l'aide d'un milieu de terrain supplémentaire, avec le retour de Santa Maria, sera un petit peu moins perdu et pourra mieux se positionner sur le terrain. Parce que sur le match qu'on a vu, ce qui était très clair, c'est qu'avec cette organisation à trois défenseurs centraux, on demande beaucoup de choses à Lovro Majeur qui ne correspondent pas à ses qualités. Alors, ça a été un petit peu le cas déjà dans le match contre l'OM. C'est pour ça que tu dis qu'il coûte le match contre l'OM. Je te rejoins à 100%. Mais encore une fois, cette défense à 3 où tu le mets dans un milieu devant 3 défenseurs avec Ougouchou, Choufkou, je sais plus, j'ai sûrement éborgné son nom. Ougouchoukou, où tu sais pas vraiment comment les rôles sont répartis, ça correspond pas à son profil. C'est un joueur qui doit jouer plus haut sur le terrain, qui doit être capable de faire des différences dans les 30 derniers mètres. Et là, en l'occurrence, le système ne lui convient pas.
Bien sûr.
Et puis il y a pas que ça, Théo. C'est-à-dire que il y a beaucoup de profils dans cette équipe, mais t'as l'impression qu'ils ont presque trop de profils différents.
Non, mais le problème, c'est que si je peux le dire, c'est que j'ai l'impression qu'on encense trop des joueurs comme Souleymana et Doku. Faut quand même rappeler que Doku, on l'a payé 27 millions.
Mais Doku, pour l'instant, c'est un flop en termes de rapport qualité-prix.
C'est un énorme flop, le mec.
Faut regarder les choses en face. Hein.
Sur FIFA, c'est super. Sur FUT, c'est super. Sous les manas, c'est super. Ouais. Les mecs, en fait, ils jouent pour eux. Ça fait 10 matchs que les mecs, on les voit sous les manas. Contre le Fenerbahçe, ils nous coûtent le match. Ils ne jouent que pour eux. Ils ne lèvent pas la tête. Sous les manas, il peut faire la passe, il tire. Alors que Langue, il est hyper fermé. Moi, ce que j'aime, c'est avoir vu Flavien T qui rentre. Et Flavien T, on sait que dans les petits espaces, surtout le jeu de Régis Lebris, bah c'est hyper serré. Et Flavien T, dans les petits espaces, il est incroyable. Il sait très bien passer les ballons. Bah là, on a vu des choses beaucoup mieux avec Santa Maria.
La carte Amari Traoré aussi sur FUT. Elle est pas mal celle-là aussi. Hein.
Elle est pas mal. Mais heureusement qu'il est là, Amari.
Théo, t'as raison sur une chose. Et ça, on le dit pas assez, mais Jérémy Doku, c'est un flop qui, à mon sens, est énorme.
C'est
27 millions d'euros. Il est arrivé une première saison encourageante avec des stats dégueulasses, mais c'était, tu sentais 2-3 trucs. Bon, on parle pas de la seconde saison, mais là, même cette saison, il a pas marqué un but, il a pas fait une passe D. C'est un scandale. Pour le prix que vous l'avez payé, c'est un très gros flop.
Il y a surtout un gros problème avec Doku, mais également avec Souleymana. C'est qu'au final, tu as l'impression que même si Genesio essaie, parce que c'est une valeur, bien sûr, marchande énorme pour le club, c'est un investissement qui est lourd, etc. Mais tu vois bien que ça passe pas, finalement. Ça passe pas dans Exactement. Le plan de jeu de Bruno Genesio. Ces deux joueurs-là.
D'ailleurs, il les fait peu jouer au final. Hein.
Oui, mais ils sont remplacés. Pourtant, il essaie et on voit quand même qu'il sait que c'est un asset important pour le club, que c'est quelque chose qui est lourd et qui pèse sur le budget. Donc, il va falloir essayer de les valoriser, essayer de les faire jouer pour au moins les revendre. Mais ça va être très compliqué.
Vous rappelez du prix ?
Ouais. Mais sous les manas, ils sont
15 millions, les gars.
Ils sont en lutte avec l'Ajax à ce moment-là. Il est annoncé à l'Ajax, donc il était quand même sur les tablettes de pas mal de clubs qui normalement recrutent quand même assez bien en post-formation.
Mais pas toujours, Kev. Il y a quand même des erreurs. Tu vois, quand on parle de la post-formation des clubs néerlandais, il y a aussi pas mal de déchets.
Il y en a partout, même au Portugal. Il y en a toujours. Mais le problème, c'est que tu peux avoir des problèmes sur un, deux éléments, sur 6, 7, 8. Mais le problème, c'est que là, du coup, c'était le plus gros investissement comme ça en post-formation.
Ce que je veux dire, Kev, c'est que si un joueur comme Souleymana, on va prendre Souleymana qui était pisté par l'Ajax, si finalement pour 15 millions il arrive à Rennes, ça, moi à mon sens ça veut dire que l'Ajax a dit ok, ça vaut pas plus quoi.
Oui, et puis après il y a le salaire. Je peux te dire que Rennes donne à mon avis en tout cas à cette époque-là des meilleurs salaires que l'Ajax.
Il y a 2 ans.
Mais en tout cas c'est vraiment ça le problème, le souci, Théo. Je sais pas ce que t'en penses, c'est qu'en fait ce sont sûrement des joueurs avec des qualités, mais ils passent pas dans le projet collectif du Stade Rennais, parce que comme tu l'as dit, c'est des joueurs qui sont quand même assez individualistes, c'est des vrais ailiers, mais ils ont encore du mal à lever la tête.
C'est exactement ça, et je pense que ça soulève bien plus qu'un problème au Stade Rennais, c'est qu'on a une génération de jeunes joueurs ils ont à peine 18-19 ans, on leur dit « bah tiens, on va t'acheter 25 millions ». Et les mecs, ils disent, bah, c'est bon, très bien, je vais dans un club tremplin comme le Stade Rennais. Dans 2 ans, je me retrouve à Liverpool, parce qu'il faut rappeler que Liverpool avait proposé 45 millions sur deux coups l'année dernière. 45 millions.
Les gars.
Moi, 45 millions, deux coups, je l'emmène, j'ai même pas le permis, mais je l'emmène à Saint-Jacques, il n'y a aucun problème.
Mais c'est... Je t'avoue que j'avais oublié cette information, mais...
Tu vois, vous voyez les gars, par exemple, Amine Gouiri, qu'on critique sur le match de ce soir, parce qu'il est critiquable, il est critiquable aussi sur les derniers matchs, mais quand même, c'est le seul qui a vraiment des stats. Il est à 14 matchs, 6 buts, ça va. En Ligue 1, il est à 6 buts. Ça reste quand même relativement correct. Tu vois, comparé aux autres.
Mais bien sûr,
et le problème, c'est que quand tu regardes, hormis Martin Terrier.
Après, il joue plus que les autres.
J'adore Arnaud Akalimwendo. J'aime beaucoup ce joueur-là. On l'a vu l'année dernière à Rennes, etc. Mais quand tu prends un par un tous les joueurs de l'attaquant du Stade Rennais, il n'y en a aucun qui a des stats vraiment dignes d'un attaquant d'une équipe qui veut jouer le podium de Ligue 1. C'est non, ça qui est problématique.
On a beaucoup d'appels ce soir au 32-16, Théo. Je vais te remercier. Merci beaucoup d'être passé.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste passer une dédicace ou pas?
Absolument, Théo, bien sûr.
À mon frère Anthony, qui m'écoute à Rennes, et puis à Zag, le supporter de Monaco qui appelle souvent. Bon, allez, gros bisous. Et puis merci, l'after, vous êtes top.
Ça s'est bien passé,
merci
ta première poulet.
Bonne journée, les gars.
Et t'as fait exprès d'appeler Jonathan McCarty Maca, c'est comme ça que j'ai envie d'appeler.
Je prends du Maca tous les jours.
Mais en plus j'ai habité pas mal d'années en Irlande, donc.
T'étais où?
J'étais à Dublin. J'habitais à peu près dans tous les quartiers de Dublin, donc.
Ça sent le mec qui travaille pour une start-up ou dans la tech.
Exactement.
Bah merci d'être passé ce soir, Théo, et tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu.
Salut, Théo. Merci les gars, et puis aller le foot et puis aller l'after.
Merci Théo.
Merci beaucoup.
Bye bye. À très vite.
Salut Théo.
C'est l'after, 23h15, 32-16, si vous voulez faire comme Théo, même supporter l'orienté, on vous attend, parce que là, c'est Aurélien qui nous a appelé, il est aussi supporter Rennes. Salut Aurélien.
Rennes sur ton collègue.
Bonsoir, l'after.
Salut Aurélien.
Ça va Aurélien?
Vous allez bien?
Ça va et toi?
C'est tous les potes de Jérôme Thomas qui appellent en fait.
Une petite défaite de plus à l'extérieur pour le Stade Rennais ce soir.
Ouais. Et ça commence à devenir une mauvaise habitude là.
C'est un peu le cas effectivement. Voilà, des choix un petit peu surprenants. Bruno Genesio, je sais pas, j'ai pas pu vous écouter juste avant parce qu'on sortait du moustoir, mais une défense à 5 quand on joue à Lorient, c'est quand même un peu surprenant. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, c'est vrai que ça a bien marché contre Paris, et depuis on a l'impression qu'il a envie d'installer ça, mais ça a pas marché à Marseille, ça marche pas ce soir à nouveau.
Tu sais, moi je le dis souvent, j'en parlais pour Pochettino, la défense à 5, bien sûr c'est une tentation pour un entraîneur comme Bruno Genesio et comme d'autres qui jouent à 4, mais le 4-3-3 c'est quand même un système, quand tu le maîtrises, qui est vraiment très intéressant et qui est fondamentalement différent du 3-5-2 forcément, on l'avait vu aussi pour l'équipe de France face à la Suisse, alors ça peut marcher ou pas marcher, mais sur le long terme après il faut savoir l'animer, ça a été pareil aussi pour le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, il suffit pas de dire tiens j'ai 3 bons défenseurs centraux, j'ai deux pistons, je vais jouer en 3-5-2, non, peu importe le niveau, c'est un système qui est vraiment pas facile à animer et il faut vraiment y croire à 100% et c'est pour ça que je veux bien pour un match, mais là depuis je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir. Ouais.
Le problème, c'est le numéro 9. On a beaucoup parlé de Martin Terrier. Aurélien, est-ce que l'arrivée de Toko Ekambi, là, qui n'était pas qualifié ce soir, mais qui pourra jouer mercredi contre Strasbourg, est-ce que tu le vois régler beaucoup des problèmes offensifs des Rennais?
Écoute, il a un profil intéressant. Je pense que déjà, il est plutôt apprécié du groupe, de ce que j'ai pu comprendre. Il a pas mal d'amis, donc l'intégration, elle va se faire assez rapidement. Ça va changer un peu de ce qui se passait pour lui à Lyon, voilà, c'est un joueur de côté, il a quand même des statistiques, Toko Ekambi, si je me trompe pas, peut-être quelques 18 buts, je crois, Kevin, que tu t'es écharpé avec Walid la semaine dernière.
C'est ça.
Sur le sujet, écoute, dans la situation actuelle de Rennes, avec le nombre de blessés, je pense que tout renfort est bon à prendre, surtout que, comme vous voyez, il y a un petit peu de manque d'efficacité en ce moment.
Toko Ekambi, c'est deuxième meilleur buteur lyonnais sur les deux dernières saisons. On a un peu tendance à l'oublier parce qu'on parle beaucoup quand il se fait chahuter par le public, mais il a des stats, effectivement.
Je l'enverrai à Walid. Thibaut, tu parlais, du 9 pour Toko Ekambi. Moi, je pense pas qu'il va jouer 9, hein. Moi, je pense qu'il va jouer à gauche.
Bien sûr.
Non, mais c'est pour ça. Ouais. C'est une question que je pose. Et finalement, en fait, quand je dis ça, je pose derrière, est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin d'une autre recrue d'ici?
Non, ça va. Après, il y a un joueur qui a forcément pas fait son meilleur match aujourd'hui, mais tu sais que je suis pas un grand fan des très jeunes joueurs. Bon, lui, il est déjà quand même. Ça fait quelques mois qu'on le voit, mais franchement, Désiré Doué, il est exceptionnel. Hein. Faut pas trop l'enflammer. J'espère que lui ne va pas s'enflammer. Je le répète à chaque fois. Mais il a une qualité technique, il a une élégance, une gestuelle, une puissance. Ah, franchement, c'est quelque chose.
Juste sur les gars, il y a Bruno Genesio qui vient de passer en conférence de presse. Là, Max Abolin me dit ça dans l'oreillette. Les deux, trois premières déclats, il dit que c'est pas un problème de système. Il dit, le premier responsable, c'est moi. Il dit également, on a entamé le match comme des touristes. Voilà, en résumé, ce que dit ce soir Bruno Genesio. Aurélien, toi qui étais sur place, t'as vu ça aussi, tu partages en tout cas, peut-être pas sur le système, mais sur les touristes du début de match, l'analyse de Genesio?
Genesio protège son groupe en disant ça. Moi, je pense que les 5 premières minutes, on est quand même bien dedans. Il y a une belle occasion d'ailleurs. Je pense qu'elle est dedans, ça change un peu le match, évidemment, c'est facile à dire maintenant. Mais effectivement, en première mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose en réalité. Majer, il n'a pas été bon à Marseille, il n'était pas bon le match précédent. il perd encore un ballon au milieu de terrain qui permet à l'adversaire de marquer ce soir. Voilà, est-ce que c'est pas le moment de remettre Tay aussi? Moi, c'est une question que je me pose. Pourtant, j'adore
encore,
ce joueur.
Encore une fois, il joue pas dans un système qui lui convient, et c'est très dur de lui tomber dessus alors qu'on lui demande beaucoup de choses dans ce système avec trois défenseurs.
Il pourrait, on l'aime tous, mais il pourrait faire un peu plus.
Oui, mais Kev, c'est un numéro 10 pour moi.
Les gars, on va s'arrêter là. J'aimerais qu'on parle un peu de Lorient ce soir.
Tu demanderas à Payet de jouer aussi bas sur le terrain?
Aurélien, merci beaucoup d'avoir été là ce soir.
Ben merci beaucoup à vous.
Salut Aurélien.
Et aux deux personnes qui m'ont accompagné au match ce soir, Gaïdig et Ousni.
Et voilà. tu rentres où là, Aurélien?
Ben on rentre à Rennes, on est déjà sur l'autoroute.
À Rennes.
Il y a combien de temps de route là, le Moustou à Rennes?
Une heure et demie à peu près.
Tu seras à Rennes la semaine prochaine?
Contre le Shakhtar?
Je te parle du samedi prochain à Rennes. Tu seras à Rennes?
Ah, il va te parler bagarre.
Oui, pourquoi?
Rendez-vous à la salle des cadets pour me voir étrangler quelqu'un. En 10 secondes.
Et je précise que ce sera dans un cadre tout à fait légal.
Bah bien sûr, je me suis entraîné. Ça fait des mois que je m'entraîne. Conférence de presse est pesée au Roazhon Park la veille, les amis.
Et par contre, à chaque fois, il parle des 10 secondes. Des 10 secondes, t'as intérêt de l'étrangler en 10 secondes.
Salut Aurélien. Ouais, c'est clair. Parce que t'auras tellement ouvert ta bouche que si tu perds, je pense que d'ailleurs, faut que tu prennes ta retraite.
Et si je l'étrangle pas, mais que je fais une clé de bras, ça compte ou pas?
Oui, mais après, c'est selon les règles. On verra. 23h20. On reste sur le foot. Les gars, un mot de Lorient. 6e qui revient à 2 points du Stade Rennais. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé que par moment, dans la ressortie de balle, dans les transitions, on retrouve un peu le Lorient qu'on avait perdu depuis quelques semaines, le Lorient de août, septembre et début octobre.
De toute façon, t'inquiète pas, ils sont toujours là, les Lorientiens. Oui. C'est les mêmes joueurs, c'est le même entraîneur. Après, il y a aussi les adversaires. Il y a comment tu gères
Les départs.
les départs.
Le mercato.
Oui, alors tiens,
aussi l'exposition.
Je précise que Bamba Dieng, donc c'est fait, c'est signé. Il a été présenté ce soir, donc il pourra jouer mercredi à Reims. Voilà ce que je voulais dire. Et que Mofi n'a pas joué, il n'était pas dans le groupe. Alors qu'hier, Régis Lebris avait dit qu'il pourrait jouer. On a bien compris que ça allait partir dans les prochaines heures.
Non, mais écoute, avec tous les départs que le FC Lorient a enregistrés, on a clairement compris que sur ce mercato, Loïc Ferry avait plus en tête de rentabiliser la première bonne partie de saison que d'essayer de capitaliser pour accrocher une place européenne, ce qui est quand même assez malheureux. Et ça me rend malheureux pour le travail exceptionnel que fait Régis Lebris. Que le Lorient soit toujours là et toujours en pôle pour une place européenne, c'est très bien. Donc évidemment qu'il y allait avoir une période de moins bien. Je pense sincèrement que l'arrivée de Bamba Dieng va leur faire du bien. Je sais que Kevin et moi, on n'est pas forcément d'accord sur le niveau du joueur, mais je pense qu'on va être d'accord sur une chose, c'est que Lorient, c'est un club à la dimension de Bamba Dieng, que le système de jeu va lui convenir, et que s'il est un petit peu moins maladroit, qu'il travaille un petit peu plus sur juste sa confiance devant le but, ça peut être une bonne recrue. Et très sincèrement, de voir cette équipe-là continuer de jouer les places pour l'Europe jusqu'à la fin de la saison, j'y crois et je l'espère.
23h22, je rappelle, oui, parce qu'on me le dit sur le chat là, de la chaîne Twitch RMC Sport, que ton combat sera diffusé sur Twitch,
bien sûr.
La chaîne RMC Sport.
À quelle heure?
Je crois que ça va être vers 20h.
Samedi prochain vers 20h en direct sur Twitch.
On sera là et on en parlera.
Voilà. Le lundi,
t'inquiète pas, on arrivera juste
lundi,
après.
Lundi, on enregistre avec l'organisateur de l'événement et mardi, je serai avec les tarés de Twitch là pour enregistrer.
Mais je suis en train de me dire
un dans la sauce.
Kevin, je pense qu'il pense comme moi. Jonathan, si samedi 20h, tu te fais démonter qu'on prend l'antenne derrière, ça va être
Mais tu sais quoi?
Ça va être terrible.
Mais tu sais, en vrai, tu veux qu'on parle sérieusement? Même si je perds, j'aurais toujours eu plus de bip que vous, parce qu'au moins, moi, je serais rentré dans la cage avec un mec en face de moi qui a envie de m'arracher la tête. Est-ce que vous le feriez, messieurs, dames?
Non, mais est-ce qu'on a envie de le faire? Voilà,
mais il faut se mesurer un jour à de la vraie violence, à de la confrontation physique.
Ouais.
C'est important, je pense. Okay. Au moins une fois.
Bon. Je te propose une bagarre avec les loups, là, dans 12 heures.
Une bagarre avec les loups, c'est quoi?
Dans le massif central, si tu veux.
Tu l'as déjà fait, Kev, ça?
Non, mais je sais pas, c'est toi qui veux de la violence à l'état pur.
Ouais. Puis tu sais, nous, Kevin, tu nous parles de cage, mais nous, on est des gars de la street, nous, il n'y a pas de cage.
Ouais. Oh là là, si vous voyez Thibaut Chiangrande en train de nous dire ça.
Allez, 23h23, le foot qui continue,
ça,
c'est la valeur.
Sur Kinvey,
avec Jonathan McCarthy ou Gims ou du Renault à l'ancienne. Kevin Diaz, jusqu'à minuit, dans un instant, les mercato, les gars. Mercato olympique. Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé à Lyon et Marseille. Que pensez-vous de la tournure du mercato marseillais, la tournure prise aujourd'hui? Je vous donne toutes les infos dans un instant et je vous attends au 32-16 supporters marseillais. Et puis le mercato lyonnais est-il inquiétant? Beaucoup de départs encore aujourd'hui, là aussi. Je vous attends au 32-16. L'after continue, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes vendredi le 27 janvier, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Jonathan McCarty, avec Kevin Diaz. Merci d'être là à l'écoute. Merci de commenter l'émission sur les applis, le Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport. Merci d'être là également sur Twitch, puisque du lundi au vendredi, vous le savez, jusqu'à minuit, l'after est en direct vidéo sur la chaîne RMC Sport où vous êtes nombreux à commenter. D'ailleurs, je vois même que Jonathan McCarty commente lui-même dans le chat. Un peu de concentration, on va poser les téléphones, Jonathan. Et puis, merci également d'être là au 32-16 de participer au débat. Dans une vingtaine de minutes, on sera avec Julien Laurence pour revenir sur l'affiche du soir, l'affiche foot européenne, la victoire de City contre Arsenal 1-0, mais c'était de la Cup. 16e de finale, City s'est qualifié pour les 8e. Et est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer pour le championnat et la lutte entre les deux pour le titre? On demandera ça à Julien Laurence. D'ici là, le mercato.
Ah.
Là, combien? Normalement, Toto en régie.
Combien? 30
000. Attends, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui, c'est 30 000. C'est un con.
Franchement, je pourrais l'écouter tous les afters, le mec.
Mais bien sûr.
Le jingle mercato.
Il fait plaisir.
Tous les soirs, tout le temps.
Ouais, franchement.
30 000. Un mercato olympique aujourd'hui. Marseille et Lyon ont été très, très actifs. Beaucoup de départs à l'OL. On en parle dans un instant. Les Lyonnais, je vous attends.
Eux, ils ont renoncé, hein. Ils ont renoncé à leur saison.
On
ils
va
ont
voir.
Dit, on foutu pour foutu. All in, on s'en fout, on vend tout. On a capté que ça allait être une saison pourrie. Et moi, je plains sincèrement. Désolé, je te bouffe ton lancement. Mais je plains sincèrement les supporters de l'Olympique Lyonnais.
Ah, peut-être pas.
Parce
peut-être
que
leur une stratégie,
les gars,
là.
Leur club, il est géré n'importe comment.
Alors,
c'est un scandale.
On en parlera dans un instant. Mais d'abord, l'OM. Je vous donne les infos du jour. La révélation, une des révélations de la Coupe du Monde arrive. Hasdine Ounahi, le Marocain, va s'engager 4 ans et demi. L'OM et Angers sont tombés d'accord sur un transfert à 10 millions d'euros, en plus, avec, faut le préciser, un fort pourcentage à la revente. C'est peut-être pour ça que le prix a baissé. Il manque quelques détails à régler pour signer. Ivan Ilic, lui, ne viendra pas. Le milieu serbe du Hellas Vérone avait donné son accord pour rejoindre Marseille. Mais
il est chaud, Jonathan.
Il devrait finalement rejoindre le Torino. Mofi ne viendra pas non plus. Et donc,
merci.
Aujourd'hui, Bamba Dieng quitte le club. L'attaquant sénégalais a signé 2 ans et demi à Lorient, plus 2 ans en option. Il a donc c'est signé. Lorient l'a officialisé ce soir. Montant du transfert, 10 millions, bonus compris. Le mercato marseillais prend-il la bonne tournure?
Donc là, l'on
32-16.
Donc Auréa, elle a réussi à faire un échange Bamba Dieng Ounahi. Il est fort quand même. Il est fort. Il voulait l'échange. Non, mais je parle en termes de millions d'euros, puisqu'il a fait 10 millions d'un côté, 10 millions de l'autre, même s'il y a sûrement un pourcentage à la revente. Mais par contre, il y avait un truc, on avait compris que Longoria ne voulait pas acheter les joueurs qui ont été brillants et très performants à la Coupe du Monde, pour pas céder à la hype. Mais bon, il a réussi quand même à tirer le prix vers le bas. On entendait des sommes astronomiques.
45 millions au Barça.
Ouais.
Enfin, 30 millions au Napoli.
Ouais. Il y a Nas 28 écrit, Nas 28 11 écrit dans le chat Twitch, Longoria et son équipe sont des cracks. T'es d'accord avec ça, Jo? En tout cas, je parle aujourd'hui sur ce mercato.
Il faisait le signe du bisou vers le public là quand tu lui as parlé de Ounahi.
Merci Pablo, et déjà merci de t'être entendu avec Lorient pour la vente de Bamba Dieng. Je pense qu'il fallait arrêter de le trimballer à droite à gauche. On a eu un mercato horrible pour lui cet été. Ça avait tout l'air d'être parti pour être encore une fois un cauchemar pour lui cet hiver. Et je pense que humainement, c'est bien que Bamba Dieng termine son aventure à Marseille, parce que sinon, ça l'aurait vraiment brisé mentalement, je pense. Ensuite, pour les recrues, écoute, moi je suis ravi. On oublie Malinovski qui est arrivé. Malinovski, c'est quand même un très bon joueur. Le genre de joueur que Marseille aurait même pas pu imaginer. Genre Marseille n'en aurait même pas rêvé il y a encore 2-3 saisons quand c'était le clown qui était à la tête de l'Olympique de Marseille.
Après, tu t'emballes fort sur Malinovski quand même. Non, pas rêvé, on parle pas de...
Écoute, Thibaut, quand c'était le clown qui dirigeait l'OM, on avait des recrues totalement minables. On faisait passer Clinton Enge pour un crack, donc ça suffit.
Oui, là, on est passé dans un autre standing. Est-ce que Malinovski est un crack? Bon, c'est un autre débat.
C'est bien de vouloir toujours contredire, mais là, par contre, tu vois, si je te dis que la Terre est ronde, tu vois, la Terre est ronde, je t'ai pas dit Malinovski est un crack, mais Malinovski, c'est un super joueur quand même, Thibaut.
T'as déjà fait le tour du monde et t'es retourné à ton poids.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, Malinovski, c'est quand même un joueur d'un standing.
Oui, mais t'as l'air de m'en parler comme si c'était... L'OM n'aurait pas pu en rêver.
Je te dis juste qu'un joueur de l'Atalanta qui est décisif, qui a des stats en Serie A dans un club comme l'Atalanta, il y a 2-3 ans, Marseille n'aurait même pas pu en rêver. Là, c'est une réalité. Tu fais venir, comme tu l'as dit, comme Kevin l'a dit, pour une somme entre guillemets dérisoire, un joueur qui a de très grosses qualités. Alors moi, certes, je disais attention, en Ligue 1, Unai, on l'a vu, il a montré des très bonnes choses, il a montré qu'il avait un potentiel énorme, mais pas vraiment de régularité. Il a fait une Coupe du Monde où il a explosé, mais et moi, le bémol que je mettais sur ses possibles transferts, c'était de dire que un club qui joue le dernier carré en Ligue des Champions, il a pas encore le niveau. Et j'ai dit pas encore. Là, à l'OM, c'est une super étape. Et attention, le mercato est pas terminé. Il y a encore un numéro 9 qui va arriver. Ça, c'est les infos qui remontent de la part de plupart de médias marseillais, notamment le Phocéen. Et si tu fais un mercato, je suis un peu long, mais si tu fais un mercato où tu auras fait Malinowski, Unai, plus un numéro 9 de mon niveau, mais c'est quoi ce mercato de fou?
Il n'y a pas encore le numéro 9.
C'est incroyable.
Beaucoup d'appels au 32-16. Nabil, supporter de l'OM et du Maroc. Salut Nabil.
Oui, bonsoir à tous. Je suis super content de passer.
Salut Nabil.
Salut Nabil.
Bah, dis donc, soir de première. Ouais. Écoute, sois le bienvenu ce soir. C'est spécial première, j'ai l'impression. Beaucoup.
T'as commandé le maillot d'Unai?
Ouais, bientôt. C'est sûr. Moi, je voulais réagir par rapport à cette super nouvelle aujourd'hui. Unai, moi, je trouve que c'est une super recrue.
Ah oui.
Par rapport à Ivanovic, je pense que c'est un joueur avec lequel on aura plus de certitude parce qu'il a quand même, faut pas oublier, fait une Coupe du Monde extraordinaire avec le Maroc. Il s'est quand même baladé contre les milieux de terrain de l'Espagne, du Portugal et de la Belgique. Donc ça, faut pas l'oublier.
Tu peux rajouter la France.
Et oui, donc c'est un joueur avec lequel on aura beaucoup plus de certitude et on sait qu'il va pouvoir hausser son niveau de jeu. C'est un joueur intelligent qui va vers l'avant. Moi, j'ai hâte de le voir aux côtés de Guendouzi et des autres milieux de terrain.
Je pense, alors honnêtement, je pense que pour la saison prochaine, ça sera le remplaçant de Guendouzi et que Guendouzi sera ailleurs, malheureusement.
Oui, voilà, je pense qu'il sera plus dans un rôle de
devant la défense,
de Guendouzi, il va être dans une rotation. Non,
Je pense qu'il va pas être devant la défense.
Je pense qu'il va être à la place de Guendouzi dans les
deux numéros 10, un joueur qui peut attaquer, qui peut défendre, qui a de la projection, qui a joué avec beaucoup d'intensité avec le Maroc. Juste petite parenthèse, honnêtement, la semaine dernière, je me suis penché sur Wisecout, sur le cas Ilic. C'était quand même un sacré joueur de foot aussi, pour l'OM. Mmh. C'était un beau joueur aussi.
Ah oui,
mais bref, Unai, c'est très bien.
Je peux me permettre, Unai, faut savoir, juste pour te donner un élément de réponse, Kevin, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et la hype de la Coupe du Monde. En fait, faut savoir que Unai avait des contacts avec l'OM avant la Coupe du Monde.
Oui, non, aussi, c'est très bien.
Et ensuite, il y a eu l'enflammade, comme toujours sur des jeunes joueurs, on l'a annoncé à 45 jusqu'à 45 millions, mais il faut savoir que il y avait quand même des contacts avant. Et si je peux juste me permettre, moi je vous ai écouté, messieurs, hier soir, vous étiez je pense que vous avez parlé un peu trop vite, si je peux me permettre, par rapport à Longoria, parce qu'aujourd'hui Longoria, en deux jours, il a retourné la table. Hier, il a raté deux recrues, on commençait à critiquer, à dire oui, mais pourquoi?
Non, on n'a pas critiqué. T'as mal écouté.
Oui, quand même. Moi, je t'ai entendu, Jonathan. T'as dit oui, faut plus d'humains, etc.
Oui, donc, par rapport à Bamba Dieng. Et il l'a fait. Mais c'était par rapport à Bamba Dieng.
Nabil, t'inquiète pas, dans une semaine, il se fait casser la figure, Jonathan.
Nabil, ce que je disais, c'était par rapport à Bamba Dieng et Longoria l'a fait, c'était juste de pas essayer de mégoter sur 1 ou 2 millions pour laisser partir. Mais juste pour revenir sur ce que
t'as
dit. Juste, Nabil, pour revenir sur ce que t'as dit.
Je pense que des fois, faut éviter de parler trop vite, quoi.
Mais j'ai pas parlé du tout sur le travail en termes de mercato de Longoria que j'ai j'en suis conscient, j'ai bien salué le travail mercato de Longoria hier. J'ai juste que sur Bamba Dieng, fallait juste pas mégoter sur 1 ou 2 millions d'euros et le laisser partir parce que l'histoire était terminée.
Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit.
Jonathan, juste parce que moi je pense que Longoria, il est dans l'humain, justement.
Ouais, bah très bien. Alors Nabil, attends, c'est important. Il y a un sujet qui est important et je pense qu'il faut en parler.
Ouais. Kevin, juste après, laisse répondre Nabil quand même, parce que.
Je te dis ça juste parce que tu as demandé d'avoir un petit peu plus d'humain dans sa direction. Je pense qu'il est vraiment humain parce que il a quand même prouvé que tous les mauvais joueurs qu'il nous a ramenés, lui, il a réussi à les revendre. Tous les joueurs que lui-même a achetés, il a réussi à les revendre.
Oui, donc enfin bon, il y a un peu d'humain. Demande à Bamba Dieng ou Cédric Bakambu si le traitement qui leur ont été infligés ont été très humains. Mais ça, c'est une parenthèse. Juste un mini sujet qui est important.
Pour conclure,
c'est que je pense vraiment qu'il ne faut pas se méprendre sur le profil d'Unai et qu'à mon sens, il arrive comme étant non pas le successeur de Dimitri Payet, non pas le successeur d'Amin Harit ou de Malinovski, mais vraiment comme le successeur de Guendouzi. C'est-à-dire ce joueur qui est à, entre guillemets, plus à vocation défensive qu'offensive, mais qui, de par son gros volume de jeu, de par son fort dynamisme, va être un petit peu ce joueur d'équilibre qui va jouer derrière l'attaquant. Je pense pas qu'il vienne pour jouer sur le double pivot.
Le lion.
Voilà, parce que le double pivot, s'il y a bien une certitude sur la saison prochaine de Marseille, si on doit se projeter sur la construction de l'effectif sur plusieurs années, c'est que Rongier a re-signé ou va re-signer, que Vertu vient d'arriver, et je pense que ces deux-là, Rongier et Vertu, sont amenés à rester et sont amenés à rester devant la défense de l'OM.
Nabil, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des Sanson, Lopez au milieu.
Exactement.
Terrain, quoi.
Ouais. Mais Lopez, on l'aurait maintenant, on serait content. T'inquiète.
Merci Nabil, en tout cas, de nous avoir appelé ce soir.
Salut Nabil.
Tu reviens quand tu veux. À très vite, Nabil. Salut. Bye bye. Ciao. Le mercato lyonnais dans quelques instants, supporters lyonnais, êtes-vous inquiets avec cette vague de départ? Lyon qui vide le vestiaire, le 32-16. Mais on termine sur l'OM avec Naïm qui nous a appelé au 32-16. Salut Naïm.
Salut l'équipe, comment ça va?
Bah, super. Salut. Super ce soir. Salut, et toi Naïm.
Est-ce écoutez,
que tu passes une bonne journée alors, là quand tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui? T'es content de la tournure que prend le mercato de l'OM?
Bah, on ne peut que être content. Et pour moi, il y a deux points essentiels à mettre en avant. Le premier étant la capacité à Longoria et à Ribalta, mais surtout Pablo Longoria, de retomber toujours sur ses pattes.
Ouais.
C'est incroyable parce que moi, je me rappelle des discussions qu'on avait cet été où on remettait un petit peu en cause. Moi, je suis pas très loin de l'avis de Nabil. Hein. Pablo Longoria, on le loue aujourd'hui au 26 janvier au soir ou le 27. Il faut pas oublier 27. Les discours qu'on avait. Ne serait-ce qu'il y a 6 mois, au moment où Sampaoli partait, il y avait un petit peu de, comment dire, un petit peu d'instabilité à Marseille. Il a vite été remis en cause. Et là, je pense qu'il prouve non seulement sa capacité à bien retomber sur ses pattes dans un premier temps, mais moi, ce qui me paraît encore plus important et ce qui a à retenir de ce mercato de l'OM, c'est en fait ses ambitions. Pour moi, en fait, c'est que c'est clairement Pablo Longoria affiche clairement ses ambitions avec l'OM sur ce mercato.
Et quelles ambitions alors, Naïm?
Pour 10 millions, quand tu vas prendre Malinovski pour 15 millions, quand tu es prêt à poser entre 15 et 20 millions, alors ça va certainement pas faire, mais l'abnégation et le temps, le fait que Pablo Longoria ait fait le trajet jusqu'à Lorient montre qu'il voulait vraiment Thérèse Moffier, qu'il a tout fait pour l'avoir et qu'il va sûrement prendre un autre attaquant de pointe pour le remplacer. Pour moi, ça affiche les ambitions de l'OM à court terme, c'est-à-dire sur les 5 prochains mois pour aller chercher le PSG, pour aller chercher ce titre de champion, et à moyen long terme pour avoir une équipe compétitive en Ligue des Champions. Et le transfert donc qui ne se fera pas, mais le transfert qui devait se faire d'Ivan Illich avec un prêt sur 6 mois et une récupération cet été, aller également dans ce sens.
Naïm, j'ai deux questions quand même pour toi sur ce mercato. J'entends l'emballement, même celui de Jonathan. Mais déjà, Unai, l'auditeur d'avant parlait de certitude. Tout le monde est certain que Unai va être aussi bon qu'il l'a été à la Coupe du Monde. Parce qu'on l'a tous vu un peu à Angers. Bon, c'était pas le même joueur qu'on a vu à la Coupe du Monde.
J'aime bien quand Thibaut il pose une question à laquelle il croit pas vraiment. Mais
ah non, mais je crois totalement. Ce serait pas le premier joueur qui a brillé à la Coupe du Monde.
La question, c'est, elle est pas là. La question, c'est que l'Olympique de Marseille ne peut pas se permettre d'avoir des certitudes sur les joueurs qu'ils prennent. C'est impossible, en fait. Il y a un moment, quand tu achètes un joueur aujourd'hui 10 millions d'euros, c'est que tu n'as pas de certitude, parce qu'un joueur avec des certitudes, ça vaut 50, 80 ou 120 millions.
Mais pourquoi tout le monde a ces certitudes, là?
Mais parce que pour l'OM, pour ce qui est en train de devenir le projet marseillais avec Igor Tudor,
il y aura du déchet.
Il y aura toujours du déchet, mais tu as quand même un joueur qui a réussi sa Coupe du Monde, qui est un joueur avec du potentiel, qui est un joueur qui a montré sur plusieurs matchs de très haut niveau qu'il a des capacités d'intensité, de répétition d'efforts techniques, mais ses capacités techniques elles sont exceptionnelles. C'est Mathieu Bonnemer qui me disait qu'il l'avait déjà dans sa liste deux ans avant qu'il signe à Angers. Donc
je vais te dire,
c'est quand même un joueur qui a des qualités, on le sait.
En 10 secondes, il y a quand même un truc, c'est que le fait que sa Coupe du Monde est un miroir grossissant sur ses performances, c'est aussi très bien. Parce que tu sais très bien que si, au bout de 6 mois, Longoria voit que ça colle pas, il y aura toujours cet argument, il a fait une grosse Coupe du Monde pour le revendre. Regarde Luis Suarez, qui est arrivé pour une grosse somme à l'OM, hein, cet été. Il a déjà été vendu. Il a vu au bout de 6 mois que ça collait pas, il a réussi à le revendre et à retomber.
Il faudra aussi trouver un neuf, hein, quand même, pour l'Olympique Marseille. Naïm, merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir.
Mon petit doigt me dit qu'il y a des contacts avec un très gros neuf.
Ok, on embrasse ton petit doigt. Naïm, merci beaucoup, tu passes une bonne soirée.
Salut Naïm.
Ah, Naïm, bah,
salut
Naïm. Direct.
Ah, lui, pour Jonathan, le petit doigt, c'est l'index. Mais
non, j'allais embrasser ton petit doigt, après je me suis dit, je sais jamais où tu le mets celui-là. 23h43, je vous rappelle qu'on est en direct sur Twitch, la chaîne RMC Sport, beaucoup de commentaires dans le chat, beaucoup de commentaires également sur le direct studio, avec K, qui est écrit sur les applis RMC, RMC Sport. Oui, il croit trop que Malinowski, c'est Redondo, calme-toi petit. Donc ça, c'était
déjà, dessiné, il joue pas même pas.
Et on passe. Tout de suite, à Lyon, le mercato lyonnais est-il inquiétant? Le vestiaire lyonnais, en tout cas, se vide. Pas d'arrivée et encore de départ aujourd'hui. Malo Gusto, ça c'est notre info de la soirée, info RMC Sport, va signer à Chelsea. La visite médicale, c'est demain à Londres. 30 millions d'euros plus des bonus pour le montant du transfert. Mais Chelsea va prêter dans la foulée Gusto à Lyon, qui va donc finir la saison à l'OL. Très vite, Kevin, j'ai d'autres infos.
Très vite, parce
qu'on a tout dit hier.
Hier, je disais que ça n'a aucun sens d'aller à Chelsea alors que tu as Reece James. Et je me disais, bon, au moins, il va pouvoir peut-être montrer sur les prochains mois pendant que Reece James est blessé. Mais là, t'y vas, donc une fois que Reece James sera revenu.
Exactement.
Bah, c'est bien. Okay,
on en parle dans un instant, les gars.
Il va être remplaçant à Chelsea.
Ryan Cherki,
comme on dit là-bas, good luck.
N'ira pas à Paris, sauf retournement de situation. Il va rester à Lyon jusqu'à la fin de la saison. La décision a été prise en haut lieu à Lyon de le conserver malgré une dernière tentative du PSG qui était censée arriver. Romain Febvre, lui, il part, prêt payant jusqu'à la fin de la saison à Lorient d'environ 1 million d'euros.
C'est bien.
Et puis Tété, tout proche de Leeds, même si Leicester essaye encore de récupérer les Brésiliens, en tout cas, il part. Da Silva, déjà parti. Toko Ekambi, déjà parti. Jeffrey Naledi serait déjà parti s'il n'avait pas eu un problème à la visite médicale à Séville. Et dans le sens des arrivées, il y a deux noms qui reviennent. L'attaquant français Wilson Isidore, Lokomotiv Moscou, lui qui est passé par Monaco. Et puis Skiri, l'ancien Montpellierain, le milieu de terrain qui est convoité par pas mal de clubs.
C'est un bon joueur,
il joue à Cologne aujourd'hui. Le mercato lyonnais est-il inquiétant? Je voudrais prendre tout de suite Quentin qui nous a appelé au 32-16, supporter de l'OL. Salut Quentin.
Salut l'acteur, vous allez bien?
Ouais, non, ça va Quentin. Super bien. Et toi, salut, comment Quentin. Tu vas ce soir après toutes les infos du jour que je viens de te donner?
Alors, l'avantage, c'est que ça y est, on n'est plus du tout surpris, donc on n'arrête plus à être déçu, quoi. Ouais. Donc maintenant ça devient une petite habitude. Non mais en fait je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi que le vestiaire se vide, clairement ça me fait ni chaud ni froid, parce que c'est ce qu'on veut qu'il se vide, que moi quel que soit le nom qui s'en va, ça me touchera pas, parce que il faut du renouvellement, il faut que ça parte. Moi ce qui m'inquiète le plus, c'est on nous raconte quoi comme histoire, en fait c'est quoi l'histoire, c'est quoi le projet, parce que on nous a raconté là Jean-Michel Aulas après le match à Strasbourg, l'état d'esprit n'est pas bon, il va y avoir des changements, etc. Première réponse à ça, tu vends Malo Gusto, mais tu le gardes 4 mois. Donc en fait, ton titulaire latéral droit, il sait que dans 4 mois, il n'est plus là. Donc conclusion, la saison, il s'en fout. Clairement. Tu fais Toko Ekambi, ok, il s'en va, faut pas se leurrer, hein, dans 6 mois, Toko Ekambi, on le récupère, et on sait qu'il sera un an de son contrat. En fait, c'est quoi le projet?
Alors, le projet, il est clair, et c'est ce que les infos que nous donnait Edouard Jay il y a 2-3 jours, c'est après avoir essayé de faire revenir l'ADN lyonnais l'été dernier, d'avoir changé de coach, d'avoir tenté la prépa physique pendant la Coupe du Monde. Bon, tout ça ne marche pas. Là, le projet, c'est de vider le vestiaire, d'essayer de changer la mentalité en vidant le vestiaire.
Le projet, c'est qu'il n'y en a pas de projet. C'est que à la tête de la direction sportive du club, t'as un mec qui est totalement incompétent, qui a fait le mariole cet été, notre ami Chérou, et qui au final a fait n'importe quoi au mercato estival, qui est en train de faire n'importe quoi au mercato hivernal. Je veux bien que tu te dises, dans un calcul un petit peu cohérent, ok, la Ligue des Champions c'est terminé, on a changé d'entraîneur, on voit que ça fonctionne pas vraiment mieux, on va essayer de limiter la casse en faisant rentrer de l'argent, parce que l'Olympique Lyonnais est un club qui est coté en bourse, donc autant, tu vois, un petit peu soigner ton bilan financier. Mais le problème, c'est que t'as aucune vision sportive à l'OL. C'est que tu l'as dit, Thibaut, t'as changé de projet 3-4 fois sur les dernières années, t'as essayé de refaire revenir l'ADN lyonnais, etc., etc., ça n'a jamais marché, t'as changé, t'as essayé de faire des choses un peu Ligue 1, un peu retourner au Brésil auparavant, ça n'a jamais fonctionné. Le problème, c'est que Lyon, depuis plusieurs années, manque de ligne directrice, et que Lyon, depuis plusieurs années, manque de compétences dans les postes de décision. Et ça, c'est le problème numéro un à l'OL.
Kevin,
il y a Moi, je vais pas dire que je suis pas d'accord pour dire que le mercato hivernal il est raté pour l'instant.
Voilà, en tout cas, il est pas terminé, mais la tournure qu'il prend là côté lyonnais, c'est évidemment un grand ménage quoi.
Il y avait besoin d'un grand ménage.
C'est ça, ça peut être une bonne solution aussi. Pourquoi pas?
Je pense que c'est la solution. Il faut absolument vider le vestiaire. Il faut absolument parce que moi, je l'ai dit, je l'ai répété. Hein, je vais pas refaire ma tirade sur Peter Bosz, mais je savais. Je pensais que l'entraîneur n'était pas le problème à Lyon. Je pense que maintenant, c'est clair en haut lieu. Le problème, c'est les joueurs, ou en tout cas certains, et il va falloir absolument en trouver d'autres et repartir avec.
C'est vraiment problématique, Kev.
Non, mais je veux dire, il y a un moment.
C'est vraiment les problèmes qui.
Non, mais il y a un moment, faut déjà ceux qui partent, c'est souvent les meilleurs puisque c'est ceux qui ont auxquels les clubs ont un intérêt.
C'est quand même un peu con quand même.
Ouais, mais bon, il y a
le Télion.
Ouais,
pas l'Orient,
ouais, mais il y a un moment, il faut repartir sur une page blanche, et même si ça va être difficile sur les prochains mois, je pense que le gros problème de l'Olympique Lyonnais, est-ce que c'est un club qui est là pour gagner des matchs ou est-ce que c'est un club qui est là pour gagner de l'argent? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire les deux dans le football moderne.
Je peux réagir à ça du coup.
Vas-y Quentin pour conclure.
Ouais, alors évidemment que si on nous dit gagner de l'argent, c'est pour gagner de l'argent, forcément que les supporters ça va nous peiner. Mais en même temps, je crois qu'on est à un point là. Je veux plus qu'on nous mente en fait. En fait, je veux qu'on arrête de nous prendre pour des abrutis à nous raconter des histoires. Ou là, s'il nous dit là que Malo Gusto va rester jusqu'en juin 2023 au minimum, alors qu'il avait très bien dans sa tête d'avoir un prêt derrière. Enfin, et du coup, je veux plus qu'on nous mente. Et au moins, Peter Bosz, bah, il ne mentait pas. Juninho, il mentait pas quand il était au micro. Et je veux juste terminer là sur le mercato qui est pas raté, Kevin. Mais s'il est déjà raté, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'idée, il n'y a que des plans A. Et il n'y a pas de plan B. Et même si tu recrutes des joueurs, c'est comme d'habitude des joueurs de fin de mercato, comme à tous les derniers mercato. On recrute dans les 3-4 derniers jours des joueurs qui n'étaient même pas les idées de départ.
Ça là, sent le petit Florian Thauvin.
Mais ouais, mais c'est quoi, je le vois venir gros comme une maison, le Thauvin. Et ça fait 2 semaines qu'on a perdu à faire 15 allers-retours au Brésil, à aller voir João Gomes, que alors c'est peut-être un bon joueur, moi j'en sais rien, je le connais pas. Mais le mec, il a dit non dès le premier jour. Mais
il n'était pas, il n'a pas été le voir. Chirou, il était en vacances. Il était à la plage. Il était peinard. Il s'y rendait des cocktails.
Abuse pas, toi aussi.
Non, mais, les gars, peu importe.
On va s'arrêter là, Quentin. Vas-y.
Ouais, de toute façon, j'ai fait ma séance de psy. Ça va mieux. Ouais. Merci, les gars.
Écoute, c'est 50, allez, 50 allez, balles. Tu laisseras tes coordonnées.
50? 80, je pense.
Attends, et on est 3 là.
On est plus.
Ouais, vous êtes pas chers, les gars. Vous êtes pas chers. C'est cool.
Ah, c'est vrai? Alors attends.
120.
On t'envoie le RIB.
Bon, Quentin, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé ce soir. Quentin, quand tu veux.
Salut, Quentin.
Merci à vous, les gars.
À bientôt. Salut, Quentin. Bye bye. Lyon qui jouera à Ajaccio dimanche à 17h05, 23h50. L'after continue. Bah oui, c'est possible. Tiens, un message de Warley sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport qui écrit: faut que Ponceau, Chérou et Olas quittent le club et tout refaire à zéro. Et puis il y a Odusp qui écrit sur le direct studio sur les applis RMC, RMC Sport: Cherki, c'était une bonne blague et les meilleurs sont les plus courts, c'est bien connu. L'after continue dans un instant.
La blague Malcolm,
le foot anglais. Oui, mais tant qu'il vient pas avec son petit frère. Doui.
Ah, je préfère Doui quand même.
C'est vrai. Oui, moi aussi. City, Arsenal. City qui a battu Arsenal, c'était la Cup. Dans un instant, Julien Laurence, que faut-il retenir de ce match? C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Thibaut Giangrande.
L'after avec Jonathan McCarty, avec Kevin Diaz. L'after en direct à la radio, en direct sur les applis RMC, RMC Sport. Vous pouvez commenter sur le direct studio, en direct Twitch, direct vidéo. Vous le savez, du lundi au vendredi de 20h à minuit, l'after est en direct vidéo sur la chaîne RMC Sport. Julien Laurence nous rejoint. Salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous.
Salut Juju. Salut,
quelle affiche ce soir en Angleterre, les deux prétendants au titre face à face, Manchester City Arsenal. C'était de la Cup, 16e de finale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? City s'est imposé 1-0. Est-ce qu'il y a des choses, des compos, des choses à analyser pour la lutte pour le titre que vont se livrer ces deux clubs, Julien?
Ouais, un petit peu. Alors, t'as raison, c'est le premier duel de la saison parce qu'ils s'étaient pas encore rencontrés. Il y a deux matchs de championnat qui vont venir. Le premier le 15 février à l'Emirates et le deuxième fin avril, je crois, le 26 avril, un truc comme ça, à l'Etihad. Donc le premier des trois duels de la saison, c'était peut-être un petit peu décevant au final parce que ça a été un match d'échec, surtout pendant la première heure, avec une équipe de City qui était à part Ederson dans les buts, qui avait été remplacé par Ortega, son numéro 2, c'était l'équipe type. Arsenal, de son côté, Arteta avait fait reposer laisser un peu plus de titulaires quand même, parce qu'il n'y avait pas Ramsdale, il n'y avait pas Saliba par exemple, il n'y avait pas Odegaard, il n'y avait pas Martinelli non plus, il n'y avait pas Zinchenko, ni White, donc tu avais quand même pas mal de titulaires habituels qui étaient au repos ou sur le banc, et ça a fait un match un petit peu fermé. J'ai bien aimé le pressing d'Arsenal, surtout en première période, qui a gêné City beaucoup, mais au final tu as un match avec je crois 13 tirs cadrés en tout, enfin pardon, 13 tirs en tout, 6 cadrés seulement, des expected goals qui sont très bas, 0,5 pour City, 0,3 pour Arsenal, même si on a vu un bon Trossard, on a vu un joli but de Nathan Ake, bien amené par Grealish.
Je pense que la première match de Trossard, Julien,
première titularisation, il était entré en jeu contre United.
Donc c'est vraiment un bon joueur en fait.
Ouais, c'est un bon joueur. C'est pas un joueur de classe mondiale, mais je pense que c'est un très bon joueur à avoir, qui peut entrer en cours de match, qui peut être titulaire, qui a une belle vivacité balle au pied, qui est intéressant dans ses moments. C'est un joueur intelligent en plus. Après, je pense qu'il manque un petit peu de constance. Il est capable de marquer un triplé contre Liverpool à Anfield cette saison avec Brighton, et puis après de pas marquer pendant les 6-7 matchs suivants, tu vois. Donc il y a ça un petit peu à régler, mais je pense que c'est une bonne acquisition pour Arsenal. Au final, il leur manque pas grand-chose, ça joue sur un rien. Je pense que la sortie de Partey à la mi-temps pour une blessure aux côtes, qu'on espère pas trop grave du côté d'Arsenal forcément, vu comment il est important, c'est ça qui ça change un petit peu le match.
Ça passe loin les côtes en juin.
Ouais, ça peut être long, ouais. Donc il aura une IRM demain matin. Donc ils verront après comment ça va se passer. Il rejoue maintenant que le week-end prochain contre Everton. Mais Lokonga est rentré, c'est un bon jeune joueur qui a du potentiel. Mais en termes d'expérience tactique, c'est très difficile pour lui. On l'a vu sur le but de City notamment, où il est un peu à la faute. Donc c'est vrai que sans Partey, c'était pas la même histoire pour Arsenal, et Lokonga est pas encore au niveau pour le remplacer comme ça poste pour poste. C'est ça aussi qui fait basculer un petit peu la rencontre pour City, mais c'était un bon match sans plus.
Et de voir Arsenal tenir tête à City, résister à ce point-là avec une équipe B, bon, c'est quand même plutôt encourageant, non? Je sais pas ce que
ouais, c'est ça. Ouais.
Sur la défense des Gunners, les remplaçants ont fait le job aussi aujourd'hui. Hein.
Ouais, alors c'était surtout holding, parce que bon, Tomiyasu, il peut être premier choix arrière droit, et Tierney peut être premier choix arrière gauche non plus. Tu vois, ce serait pas choquant. C'est plus holding à la place de Saliba, qui a eu une première période assez intéressante contre Erling Haaland, puisque City avait forcément ciblé holding plus que Gabriel, l'ancien Lillois. Et donc ils ont beaucoup joué sur ce côté-là. Donc il a pris un carton assez vite. Il y avait un peu de bagarre avec Haaland. Il lui a mis un petit coup de coude dans la nuque. Non, mais surtout il est sorti à la mi-temps parce qu'il y avait trop de risques qu'il prenne un carton rouge par exemple. Donc Saliba est entré. Je pense pas que c'était le plan à la base, mais forcément holding aujourd'hui fait pas le poids contre Erling Haaland. Donc c'est pour ça. Mais globalement, enfin dans l'ensemble, oui, c'était plutôt rassurant côté Arsenal de dire bah voilà, nous on peut aller à l'Etihad, on peut jouer, on peut avoir 46% de possession de balle, faire autant de passes quasiment que City. On peut les presser, on peut les empêcher de repartir de derrière, de bien construire, etc. On peut bien tenir un Kevin De Bruyne par exemple qui a pas eu l'influence habituelle qu'il a sur un match de Manchester City. Donc ils ont fait plein de choses bien et finalement ils perdent quand même. Mais ça peut être le côté rassurant, et pour City on peut se dire bah voilà, sans bien jouer, en étant un peu gêné, on les a quand même battus. C'est aussi encourageant dans l'optique de City pour les matchs de championnat qui vont arriver contre Arsenal.
Et Caicedo, entre Arsenal et Chelsea, son club de Brighton n'a pas choisi, mais ce soir il met un post où voilà, il annonce quasiment son départ parce qu'il remercie Brighton, etc. Donc on va suivre ça.
Un petit coup de pression pour qu'il les laisse partir, parce que pour l'instant ils ont rejeté l'offre de Chelsea d'ailleurs rapidement de 55 millions d'euros. Ouh, ils ont rejeté celle d'Arsenal de 60 millions d'euros. Ouh. Pour Caicedo, un joueur qui est très jeune encore, qui a finalement très peu joué en Première Ligue. Donc voilà, on verra où il ira.
Merci beaucoup Julien, bonne nuit.
Merci. Salut les gars, ciao ciao.
Bye bye, bye. C'est fini pour ce soir. Kevin, Jonathan, merci. Salut les gars.
Salut Kif,
merci
salut, Kev.
À tous de nous avoir écoutés, de nous avoir appelés au 32-16, d'avoir commenté sur le Direct Studio, d'avoir commenté sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport. Merci à vous d'avoir été là. Tiens, je vais lire un dernier message. Nas, qui écrit « Arsenal a de vrais bons jeunes ». Voilà. Et puis Hermès écrit « Salut les meilleurs, Kevin, moi aussi, ancien Staps il y a 20 ans, semestre 1, rugby et GRS ».
Pas bien, Kevin, voilà. À la GRS.
Non, ah oui. J'ai pas fait.
Si.
T'es pas.
Allez, on doit y aller.
On a des photos, on les mettra en ligne sur Twitter.
On revient demain soir dès 21h. Merci à tout. À Max, bonne nuit l'équipe, ciao.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.